tout cas, merci beaucoup. Je suis ravie, moi, de faire cette introduction parce que votre séminaire, je le trouve hyper intéressant parce que je pense que c'est le moment de se poser ces questions, de savoir comment on fait pour recruter différemment, pour manager autrement. On est vraiment dans une période où l'unité de lieu de travail a explosé, l'unité de temps de travail explose. Donc, effectivement, comment on fait avec toutes les équipes, avec tous les collaborateurs pour inventer une autre relation. Et donc, je vais vous parler d'expérience collaborateur. Et avant de vous parler d'expérience collaborateur, je voulais dire aussi que moi, j'aime beaucoup l'idée de venir vous parler à vous, ESN, parce que je pense que vous avez tout ce qu'il faut en fait pour suivre la disruption de ce monde du travail qui est en train d'évoluer. En fait, ne serait-ce que, par exemple, si on prend un peu l'historique de la symétrie des attentions, donc l'idée de pouvoir mieux traiter le collaborateur pour qu'il traite mieux le collaborateur, en fait, elle est née avec une SF2I indienne. Donc, c'était Vinit Nayar, que peut-être vous connaissez déjà, en 2008, qui s'est dit, mais comment je peux faire pour qu'en fait, avoir une performance plus durable. Et il s'est dit, mais en fait, c'est simple, il faut que d'abord je m'occupe de mes salariés pour qu'ils s'occupent mieux de mes clients. Et il a créé cette méthode EFCS, Employees First, Customer Second, où en fait, effectivement, il décrit dans un bouquin que je vous recommande, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires dans le monde, comment il fait, en fait, comment il a fait. Et donc, il est en fait un des inspirateurs de l'expérience collaborateur parce qu'il a expliqué effectivement que si on s'occupait bien de ses collaborateurs, eh bien forcément ses clients étaient plus contents. C'est hyper basique, mais voilà. Donc en fait, vous avez beaucoup parlé d'innovation, mais je trouve que la principale innovation RH aujourd'hui, c'est finalement un back to basics en fait. Je pense que pas besoin de mettre trop de paillettes, il faut juste revenir aux basiques. Donc, je vais vous parler d'expérience collaborateur. Peut-être juste avant, je décris vite fait mon parcours pour que vous ayez une idée de qui je suis. Donc, je suis RH de formation, hein, ça c'est voilà. Donc, je suis issue du monde RH. Ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille toujours sur des sujets d'innovation RH. Moi, c'est vraiment le fil rouge de ma carrière. Au départ, sur le learning, qui était vraiment ma première expertise que j'ai eu la chance de développer dans un groupe industriel, le groupe Suez en l'occurrence, où j'ai tout appris. J'ai grandi, je suis un bébé de Suez, j'aime bien me définir comme ça. Je suis un bébé de Suez où j'ai eu la chance de sortir le premier serious game du groupe, qui a été d'ailleurs primé sur des salons. C'était un serious game de recrutement qui s'appelait Ambassador, qui était très chouette. On apprenait les métiers de l'eau et des poubelles, ça c'est super. Bon, voilà. J'ai aussi animé le réseau des responsables compétences et formations du monde, parce que Suez est un groupe international, donc ça c'était chouette. Et j'ai travaillé sur la méthode de transfert de savoir-faire, puisque le groupe Suez, avec ses clients internationaux, avait pour mission de transférer son savoir-faire, puisque les clients internationaux ne sont pas comme les clients français, ils ne veulent pas de concession, ils ne veulent pas que le partenaire reste à domicile pendant 150 ans dans le pays, ils veulent que le partenaire vienne 5 ans, s'en aille, mais qu'il ait formé toutes les équipes. Donc, dans cette méthodologie de transfert de savoir-faire, moi, j'ai créé le kit compétences et formations et j'ai beaucoup travaillé avec l'Algérie et l'Azerbaïdjan, qui étaient mes deux pays, en fait, de mes deux zones de jeu. Voilà. Et puis après, je suis arrivée dans le monde bancaire, toujours sur un sujet d'innovation, toujours sur un sujet feuille blanche, création de poste, où en fait, là, on m'a dit, mais Anne, parce que c'était mon ancienne manager, en fait, de Suez, qui était passée au Crédit Agricole et qui m'a dit, viens, et on a besoin de travailler sur l'expérience collaborateur. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si on doit y aller, on ne sait pas bien, en fait, si c'est juste une façon de renommer un métier qui existe déjà, le métier RH, parce qu'effectivement, en tant que RH, on peut se dire, mais expérience collaborateur, en fait, c'est de la RH, quoi. Arrêtez d'inventer encore un nouveau mot pour faire un truc qui existe déjà. Voilà. Donc, voilà, on a besoin d'y voir plus clair. Ça, c'était en 2019. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir piloter une super étude pour le groupe Crédit Agricole avec Mazars, parce que j'ai absolument bossé avec Mazars, parce que Mathilde Lecause, que vous devez peut-être connaître si vous êtes RH, c'est la présidente du Lab RH. C'était à l'époque la directrice innovation de Mazars France. Et en fait, elle écrivait toujours des trucs hyper chouettes. Et moi, je voulais bosser avec elle. Parce que les consultants, bon, en tout cas en RH, ils ne sont pas toujours très innovants. Voilà, bref. Et elle, je savais au moins qu'on allait faire un truc sympa. Donc, du coup, effectivement, j'ai bossé avec ses équipes et on a sorti une étude super chouette. Et à la fin de l'étude, j'ai dit à ma manager, ah non, mais là, il faut qu'on en fasse un bouquin, en fait. C'est comme ça qu'est née au cœur l'expérience collaborateur. Il faut qu'on en fasse un bouquin pour partager tout ce qu'on a appris. Parce qu'en fait, ce n'est pas de la RH. L'expérience collaborateur, ce n'est pas de la RH. Oui, bien sûr, c'est la RH qui est en ligne, mais ce n'est pas de la RH. C'est d'abord du service client, en fait. Donc, voilà. Et au cœur de l'expérience collaborateur est née comme ça. Je l'ai co-écrit avec Fabien, qui était un des consultants qui avait bossé avec moi sur la mission. Et puis là, je suis sur un nouveau terrain de jeu, les New Ways of Working, pour toujours dans le secteur de la banque, où j'applique effectivement les principes d'expérience collaborateur aux New Ways of Working. Voilà. Donc, l'expérience collaborateur, il faut que j'ai dit tout ça. C'est quoi? Expérience collaborateur, c'est d'abord deux mots. Expérience et collaborateur. Donc, Si on regarde dans le petit Robert, ce que ça veut dire expérience et ce que ça veut dire collaborateur, en fait, expérience, c'est un enchaînement d'événements dont je vais pouvoir tirer une leçon. Ça, c'est le mot expérience, voilà ce qu'il veut dire. Et collaborateur, ça veut dire que c'est une personne qui va œuvrer avec vous à un projet commun. Mais collaborateur, au sens expérience collaborateur, c'est plus large que juste vos salariés. Ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête parce que le collaborateur, ça va être bien sûr vos salariés, les permanents, mais pas que, donc aussi les CDD, les intérimaires, les stagiaires, les alternants, voilà, donc tout le monde, toute votre masse salariale, enfin, oui, toute votre masse salariale, on va dire, d'une certaine façon, mais plus largement vos partenaires. Donc, on vous avait parlé d'écoles tout à l'heure avec lesquelles vous avez des partenariats, ce sont aussi des collaborateurs, c'est une typologie de collaborateurs. Les fournisseurs, les consultants avec lesquels vous allez bosser sont aussi des collaborateurs au sens expérience collaborateur. En fait, c'est tout votre écosystème. Toutes les personnes qui vont bosser avec vous sont vos collaborateurs au sens expérience collaborateur. Et après, une fois qu'on a défini ces deux mots, si on regarde, bah, finalement, si on se met dans les chaussures du collaborateur et si on se met dans les chaussures de l'entreprise, ça ne veut pas dire la même chose, en fait, expérience collaborateur. Pour le collaborateur, en fait, ça va être l'héritage de. Alors, l'héritage, on va dire même global, hein, physique, émotionnel, intellectuel, spirituel, de toutes les interactions qu'il va avoir avec vous, entreprise et votre culture, et qui vont avoir un impact sur son engagement. Parce que c'est ça, le but, hein, c'est d'engager ses équipes. Et côté entreprise, c'est justement la cartographie de toutes ces interactions et le pilotage que je vais mettre en place pour pouvoir maximiser l'engagement des équipes, pour pouvoir avoir une performance business qui est extraordinaire. Voilà. Donc, on voit bien que dans les deux cas, l'objectif, c'est l'engagement. OK. Mais alors, cette expérience collaborateur, en fait, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on peut détailler de plus? Parce que l'expérience collaborateur, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle existe. Que vous le vouliez ou pas, que vous y ayez intéressé ou pas, les équipes avec lesquelles vous travaillez ont une expérience, vivent une expérience. Et d'ailleurs, cette expérience commence avant même qu'ils aient eu une interaction avec vous. Leur première interaction, si je prends Disney, c'est le film de Noël. Voilà, on est tout petit. Là, vous avez déjà une première interaction avec Disney. Et vous vous faites déjà une idée de ce qu'est Disney. Donc, l'expérience collaborateur, elle commence déjà à ce moment-là, par exemple. Et en fait, elle va très loin parce qu'elle va jusqu'à même après que vous soyez parti de l'entreprise. Vous avez des entreprises, je vais prendre Orange par exemple, qui animent son vivier de retraités. Voilà. Qui, par exemple, va leur faire visiter les nouveaux locaux. Ils ont un nouveau siège là, en banlieue parisienne, qui est magnifique, qui est sur bord de Seine. Bref, ils ont leur petit wagon de retraités qui vient visiter les locaux d'Orange et qui, du coup, en parle. Ils en parlent à leur famille, ils en parlent à leurs amis. Donc, c'est de la promotion gratuite, mais hyper maligne. Donc voilà, donc cette expérience collaborateur, elle existe que vous le vouliez. Non. Alors vous avez tout intérêt à la piloter pour en faire quelque chose. Après, elle est multifactorielle et évolutive. Ça fait super peur. Oula, ça bouge tout le temps. Comment je vais faire? C'est impossible. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'elle se design, en fait, l'expérience collaborateur. Elle est multifactorielle et évolutive, mais comme elle se conçoit, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez appliquer les techniques du marketing, c'est-à-dire vous allez segmenter vos cibles. Voilà, une fois que vous avez identifié vos segments, vous allez définir quels sont les segments prioritaires, parce que l'idée, ce n'est pas d'adresser tous les segments, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Vous définissez vos segments prioritaires. Une fois que vous avez vos segments, vous dites, bon, OK, quelles sont les attentes de mes segments? Ah, OK, c'est ça. Et là, vous partez dans tout le système design thinking, etc. Vous faites les personas. Une fois que vous avez les personas, vous créez le parcours utilisateur, blablabla. Bla, 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 bla. Bon. Une fois que vous savez quelles sont leurs attentes, vous allez mettre en service, enfin, développer un service ou un produit qui correspond à ces attentes. Et une fois qu'ils sont développés, ces services et ces produits, vous allez faire une évaluation auprès de votre client, qui est donc votre collaborateur. Vous allez savoir si ça lui convient, ça ne lui convient pas, ce qui va vous permettre de rentrer dans une boucle itérative d'amélioration continue. Voilà. Donc, oui, ça fait peur de savoir que c'est multifactoriel, pardon, évolutif, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça se conçoit. Donc, ça, c'est cool. Après, l'expérience collaborateur, elle est forcément ce que vous êtes vous. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur d'Hardy, ce n'est pas la même que celle de Google, ce n'est pas la même que celle de Soleris. Bah, c'est ce que vous êtes vous. Et ça, c'est un enseignement très important qu'on a tiré de l'étude qu'on a faite. C'est qu'on s'est dit, mais en vrai, ça ne sert à rien de vouloir être comme le voisin. Il faut d'abord être soi-même. Et là, je prends toujours le même exemple, c'est les pubs pour les voitures. Si vous coupez les images juste, vous avez le son, elles disent toutes la même chose. On va sauver la planète, je vais te fournir une voiture électrique avec un SAV adapté. Youpi. Alors, vous ne savez pas si c'est Renault, Peugeot, Toyota, on ne sait pas qui parle en fait. Donc, on a un problème d'identification de la source. Et ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas être comme le voisin, il faut d'abord être qui vous voulez. Donc, ça veut dire quoi en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise? C'est de faire votre cartographie culturelle. Quels sont vos traits culturels? Et pas ceux que vous avez envie, vous imaginez que votre entreprise est, mais celles que vos collaborateurs vivent. Je vois par exemple, côté Crédit Agricole, on avait fait en fait sur la base du baromètre d'engagement que je pilote aussi pour le groupe, on a récupéré tous les verbatim et on s'est dit, OK, on va faire une analyse des traits culturels, on va voir ce que vivent les gens et puis on va voir qui on est. Vraiment, parce que pas ce qu'on pense qu'on est. C'est une grosse différence. Bon, voilà. Donc, il y a ce travail à faire de savoir qui vous êtes. Ça, c'est très important parce que l'expérience que vous allez piloter, que vous allez cartographier, que vous allez designer, elle correspond à qui vous êtes, vous et pas le voisin. Et l'expérience collaborateur, en fait, elle est synonyme d'enchantement. Et déjà, je leur file un PC, c'est cool, hein. Non, en fait. Et l'enchantement, c'est du vocabulaire expérience client. C'est d'ailleurs un vocabulaire expérience client emprunté au luxe, plus précisément. Et c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, ces boîtes vont vouloir montrer quel est le supplément d'âme qu'elles vont mettre dans leurs produits, qui va faire que vous allez acheter un carré Hermès et pas un truc chez Dior. Oui. Et ben c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends par exemple l'intégration dont on sait maintenant qu'en fait le premier jour est clairement corrélé au taux de rétention, mais pas de pression, et bien ça veut dire que le premier jour, si je travaille dans une entreprise du secteur tertiaire, mon employeur, mon job, ce n'est pas de faire en sorte qu'il ait un PC pour bosser. Non, mais ça, c'est juste mon travail. Donc, il ne va pas me remercier parce que je lui donne un PC. Mais par contre, si, quand je remets ce PC, c'est peut-être le manager qui lui remet le PC avec un mot de la direction, avec un cadeau, j'en sais rien, n'importe quoi. Enfin, un truc qui fait que vous êtes vous et pas le voisin, encore une fois. Là, on se dit, ah ouais, là, je me suis fait de l'intégrer quand même. Chez Hardy, c'est comme ça. Et je vais en parler. Donc, le synonyme d'enchantement, ça veut dire supplément d'âme. L'expérience collaborateur, elle provoque un supplément d'âme. Donc, voilà un petit peu pour définir ce que c'est que l'expérience collaborateur. Et après, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est cette expérience collaborateur, quand vous la designez, vous devez toujours avoir en tête les trois besoins fondamentaux. Les trois besoins fondamentaux. Pour distinguer besoin, attente, on a tous des besoins, le même besoin, celui de manger, par exemple, mais on ne va pas tous avoir les mêmes attentes. Il y en a qui vont manger des pizzas, d'autres qui vont manger végétarien, je ne sais pas, qui. Enfin, bref, mais on a tous besoin de manger, mais nos attentes sont différentes. Et bien, l'idée des trois besoins fondamentaux, c'est la même chose. C'est en fait de se rappeler que avoir un job, être salarié, c'est avoir un job, mais pas que, en fait. C'est surtout être un être humain avant d'avoir un job. Et ça, c'est très important quand on fait ces designs expérientiels parce que ça veut dire qu'on va devoir regarder, en plus de qui on est nous, on va devoir regarder ces trois besoins fondamentaux-là, qui sont la sécurité, le sens, on a pas mal parlé tout à l'heure, et la considération. La considération, ce n'est pas la valorisation. La valorisation, c'est une récompense. Tu as bien travaillé, l'entreprise a bien performé, donc il y a des primes. Voilà, ça, c'est de la valorisation. La considération, c'est en fait réaliser que vous êtes avec d'autres êtres humains et que tout ce que vous allez faire va avoir un impact sur ces êtres humains. Donc, c'est vraiment la qualité de la relation au sens strict du terme. D'ailleurs, on a de plus en plus, il y a des articles sur l'intelligence spirituelle. Bon, non, c'est pas sectaire, c'est pas idéologique, pas du tout. En fait, même le SCP ou l'ESSEC, je ne sais plus laquelle, a créé une chaire intelligence spirituelle où en fait, c'est justement de rappeler comment avoir une relation de qualité avec un autre être humain. Il y a un documentaire super intéressant de Valérie Seguin qui est sorti qui explique ça. Donc, en fait, c'est des différentes entreprises qui témoignent et qui disent, ben voilà, chez nous, on se dit bonjour. Mais ça, c'est important parce que même ça, on ne le fait plus, en fait. Dans des boîtes, pas forcément bonjour pour des bonnes et des mauvaises raisons. En fait, ce qu'on constate en ce moment, c'est souvent parce qu'on n'a pas le temps de les presser, machin, oui, salut. Puis je te dis comment ça va, mais j'écoute pas la réponse en fait. Tu peux me répondre ce que tu veux, je suis partie. Donc voilà. Bon, ouais. Donc la considération, c'est vraiment ça. C'est vraiment la qualité de la relation, d'homme à homme, d'être humain à être humain. Et ces trois besoins fondamentaux que je suis en train de vous décrire, en fait, ils ne sortent pas de la tête de Fabien Vacherey et d'Anne Bourbanque, hein, pas du tout. En fait, ce sont des études qui ont été menées à Harvard, par exemple, voilà, par Amy Emerson, qui, en fait, est arrivée à ces conclusions-là. Pareil pour Julia Rodowski, qui est aussi une chercheuse, elle, pour le coup, Harvard aussi, mais surtout qui était une analyste chez Google et qui a piloté le projet Aristote. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le projet Aristote. En fait, c'était hyper intéressant, le projet Aristote, c'était de savoir quels étaient les critères prédictifs de performance, quelles étaient les équipes qui performaient le mieux et pourquoi. C'est ça, le projet Aristote. Donc, c'est Amy Emerson, Julia Rodowski qui ont fait des recherches. Et donc, ce que je vous dis sur les trois besoins fondamentaux, c'est issu de ces recherches. Donc, je vous ai parlé de la considération, pardon. Là, je vais vous parler de la sécurité. Alors là, c'est que vous avez la sécurité physique et la sécurité psychologique. La sécurité physique, quand je suis dans une entreprise industrielle, c'est assez facile à matérialiser. Je mets mes EPI, j'ai mon casque, mon gilet jaune, enfin orange, bon, mes chaussures. Voilà, c'est ça la sécurité dans une entreprise industrielle. Mais quand on se dit dans une entreprise du tertiaire, ouais, ça va, c'est bon, on passe par le mur en travaillant, ça va les fois. En fait, il y a une étude AXA qui est sortie, qui dit que 21% des absentéismes de longue durée sont dus à des troubles musculo-squelettiques. Et on dit aussi que sitting is a new smoking, c'est-à-dire que la position assise est aussi délétère pour le corps que fumer une cigarette. Dans les entreprises du tertiaire, on passe notre temps assis comme ça. Veut dire qu'on se fait mal. On se fait mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des entreprises qui vont soit effectivement avoir des partenariats avec des salles de sport, enfin un réseau de salles de sport qui va permettre aux salariés d'aller où ils veut en fonction de là où il est. Soit vous allez avoir des coachs internes qui vont passer sur les plateaux pour regarder vos postures, vous donner des conseils pour vous détendre les yeux, vous détendre les bras, vous détendre les hanches, enfin voilà. Mais en tout cas, pour éviter que vous fassiez mal, soit dans le mobilier de bureau que vous allez choisir, vous allez avoir des positions avec des tables avec des positions hautes. Pas, enfin, vous allez pouvoir régler en hauteur, comme ça vous permettez à vos salariés de travailler debout et pas juste assis, etc., etc. Donc la sécurité physique, c'est aussi un sujet pour vous qui êtes entreprise du tertiaire. Après, vous avez la sécurité psychologique. Bon, je crois que ce n'est pas la peine que j'étaye trop sur le sujet parce que vu le nombre d'articles qui sortent depuis la pandémie, enfin depuis le Covid, qui expliquent que les gens sont mal, vont mal, sont épuisés, etc., etc. Voilà, on a tous les baromètres qui sortent encore, hein, tous les ans, depuis 3 ans, c'est pire. Toujours le baromètre AXA dit que 22% des arrêts de longue durée ont des origines psychologiques. 22%, c'est beaucoup. Et on sait très bien que les arrêts psychologiques, en tout cas les dégâts psychologiques, c'est sur plusieurs mois qu'ils se traitent. C'est pas comme une maladie qui guérit assez vite. Je ne parle pas des pathologies chroniques, mais voilà, les pathologies psychologiques, elles, durent dans le temps et même explosent plus tard. Donc, vous avez tout intérêt à les gérer le plus vite possible, en tout cas, être plutôt, encore une fois, dans de la prévention, avec, par exemple, vous allez avoir des boîtes qui vont équiper leurs salariés d'applications qui leur permettent de mesurer leur niveau de santé mentale et, en fonction de la santé mentale, de pouvoir avoir accès à des ressources qui vont leur permettre de savoir quels sont les facteurs qui peuvent les aider à rééquilibrer, etc. Enfin, vous avez plein de choses sur la santé mentale aussi. Enfin, plein d'entreprises qui font des choses sur la santé mentale. Et bien sûr, ça commence par la cartographie des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ça fait peur. On ne peut pas parler de risques psychosociaux, on peut parler de QVT, mais QVT, ça ne fait pas assez sérieux. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Mais en tout cas, en France, légalement, on doit mettre à jour son DURP. Donc, à partir de là, au moins ça, hein, en RH. Voilà. Et qui vous permet de faire cette cartographie de ce qui est psychosociaux, d'identifier les problèmes et de pouvoir mettre en place des solutions. Et vous avez à cheval entre la sécurité psychologique et la sécurité physique tous les dégâts somatiques. Et là, on va par exemple avoir l'Institut du cerveau français qui dit que dans les prochaines années, une personne sur 8 en Europe sera atteinte de maladies neurodégénératives. Ça fait beaucoup quand même, une personne sur 8. Voilà. Et je ne vous parle pas des enfants qui vont arriver sur le marché du travail, parce qu'alors eux, quand on regarde la santé mentale des enfants, elle est très, 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 très abîmée avec le confinement et tout ce qui s'est passé, les masques à l'école, les machins, les trucs et tout. Les enfants sont cabossés. Voilà, et ils vont arriver sur le marché du travail. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'ils aient envie d'y aller très vite.
Ça va?
Mais oui, c'est ça qui est génial. Moi, je trouve qu'on est dans une période où justement, on peut tout faire. On peut tout faire. C'est la première fois qu'on a le manche comme ça pour vraiment dessiner un autre monde du travail. Moi, j'adore cette période, en fait. Je ne dois pas dire trop comme ça. peut faire trop de trucs, en fait. Donc, voilà pour la santé mentale, et puis, enfin, pour la sécurité, pardon. Puis après, vous avez le sujet du sens. Alors, le sujet du sens. Le sujet du sens, à partir du moment où vous avez une chanteuse comme Beyoncé. Alors, c'est pas que j'écoute Beyoncé particulièrement. Il y a des millions de followers dans le monde qui, l'été dernier, sort une chanson, Break My Soul, où elle explique dedans « Dégage de ton job. Dégage-toi du temps. Ah » On dit « Mais tout le monde l'écoute ah !» Bon, elle a plus d'abonnés que vous et moi, enfin que vos comptes entreprises réunis. Hein. Donc, voilà. Donc, elle a un impact énorme. C'est une influenceuse, ça s'appelle. Bref. Et donc, voilà, à partir du moment où vous avez aussi un métamoteur de recherche comme Indeed, on ne présente plus, qui fait une pub. Alors, c'était au même moment, en plus, la chanson où on voit une aide-soignante ou une infirmière, je ne sais pas très bien distinguer. Bon, bref, qui sort de l'hôpital avec ses écouteurs sur les oreilles et puis elle regarde des annonces sur Indeed. Puis, ah, mais j'ai trouvé là, un job qui me correspond mieux. Ah, c'est en dehors de Paris. Ah, mais je vais m'en aller de Paris. Là, tous les employeurs parisiens se sont dit, oh mon Dieu, Indeed est en train de dire, mais dégagez de Paris. Donc, voilà. Donc, bon, bref, donc il y a quand même, et puis je ne parle pas de tous les podcasts qui sont sortis sur le sens, ça, là, 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 tout ça, tout ça. Bon. Et en fait, ce qui est intéressant et très contre-intuitif avec le sens, c'est que ce n'est pas vous, entreprise, qui donnez le sens. Vous allez planter un cadre qui va permettre à chacun de trouver son sens. Ah, ce n'est pas parce que vous êtes une boîte de l'environnement que vous êtes plus intéressante qu'une boîte qui fait de la cigarette. Pas comme ça que ça marche. Non. C'est vous allez offrir un cadre qui va permettre à chacun de trouver son sens. Et là, je prends par exemple l'exemple d'Emig, Emig France, qui fait un truc génial, je trouve. Voilà. En fait, ils proposent à toutes leurs équipes de réfléchir à leur ikigai avant de passer l'entretien annuel. L'ikigai, c'est une technique de développement qui vient de, enfin, qui est extrêmement orientale, des îles, je ne sais plus lesquelles, dont on dit toujours, ah, ils mangent super bien, ils vivent super longtemps. Ouais, alors, ce n'est pas juste un régime Okinawa, voilà, c'est ça, Okinawa. C'est aussi une façon de vivre. Okinawa, les habitants d'Okinawa font leur ikigai. Donc, en fait, ils réfléchissent effectivement à ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils acceptent d'être rétribués, ce dont le monde a besoin et la contribution qu'ils peuvent apporter à ce monde. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une pratique assez intéressante qu'Eming a mise en place, justement, pour permettre à chaque collaborateur, à chaque salarié, avant l'entretien annuel, avant cette discussion, bon, dont on peut parler, mais enfin bref, avant cette discussion avec son manager, de se dire, ben voilà, moi, je suis plutôt comme ci, comme ça, blah, blah, blah. Donc je te propose de faire mon job plutôt comme ça. Parce que, ben voilà, moi, je, par rapport à ce que je suis, je propose une autre orientation pour faire mon job. Parce que avant de changer de job, il y a juste faire un peu différemment son job. Ça, c'est quand même une voie qu'on n'investit pas forcément, en RH en tout cas, mais il n'y a pas que la mobilité, en fait, dans l'évolution de carrière. Il y a aussi comment on peut faire différemment son propre job. Voilà, pour redonner un peu de flamme. En fait, ce qui est intéressant avec le travailleur expérientiel, c'est qu'il inclut finalement le travail dans son rapport au monde. Et ça, c'est chouette. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une période très excitante. Parce qu'en fait, on voit que tout est en train de péter. Et si on regarde, par exemple, le rapport au travail change complètement, le rapport au temps de travail change complètement. On a les débats sur la semaine de 4 jours. Et d'ailleurs, l'entreprise en France qui a mis en place, et voilà, une entreprise du numérique. Donc, quand je vous dis que vous êtes bien placé pour tout faire, c'est DLT, de la clergerie là, qui explique en plus très bien dans un documentaire d'ailleurs que je vous recommande, Time to Work, de Samuel Durand. Il explique très bien que c'était compliqué pour lui la semaine de 4 jours. Il dit oulala, qu'est-ce que je vais faire? Bah, allez, j'essaye quand même. Et puis il explique tous ses doutes, il explique comment il a fait avec ses équipes, tous les freins, que 4 jours ça fonctionne si on travaille 5 jours en fait. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise soit ouverte 5 jours. Donc on ne va pas tout savoir le vendredi, ni le lundi, ni le mercredi. Donc ça implique une réorganisation complète. Enfin bref, il explique ça très très bien dans ce documentaire. Donc voilà, donc le rapport au temps de travail change, le rapport au lieu de travail change. Qu'est-ce qu'on fait de nos tours à la Défense? Personne dedans. Mais ça veut dire qu'en fait le lieu de travail c'est quoi mais alors à ce moment-là, si le lieu de travail bouge, ça veut dire que finalement moi en fait soit je dois réallouer une partie de mes locaux, voilà, pour peut-être faire des tiers-lieux, j'en sais rien, je sais pas quoi, mais enfin, imaginer une vie sur le travail, un peu comme la SNCF qui est en train de se dire, bon ben voilà, nous, nos gares, c'est des hubs, c'est des points de croisement entre plein de gens pour plein de trucs, et donc on veut transformer nos gares en points de rencontre. Et ben le lieu de travail, il est en train de bouger, il faut l'imaginer autrement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, le lieu de travail bouge aussi. Sur le travail, ça pose la question même du travail. En fait, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a un ethnologue, enfin des ethnologues, pardon, qui ont fait une recherche sur une tribu qui ressemble beaucoup au. Enfin, qui se rapproche le plus du Homo sapiens il y a 70 000 ans. Quand on imagine Homo sapiens à 70 000 ans, on n'a pas trop envie. On a l'impression que c'est un peu Koh-Lanta en permanence. Voilà, ça n'a pas l'air cool comme vous. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'ils disaient. En fait, grâce à cette recherche, ils se sont aperçus qu'en fait, ils étaient super bien, mieux que le sapiens du 21e siècle. En fait, ils passent leur temps à faire juste ce qu'il faut. C'est le juste effort, pour le juste manger, au juste moment. Enfin, il y a quelque chose. Mais du coup, qui appelle derrière le sujet de la décroissance. Voilà, et à un moment donné, respect de la planète, tout ça, bon. Donc, en fait, tout est en train d'exploser, et c'est pour ça que, à mon avis, vraiment, ma conviction, c'est que l'expérience collaborateur, c'est la bonne façon d'y aller, parce que, c'est, encore une fois, c'est une stratégie d'entreprise, hein, c'est pas un truc qu'on fait quand on a une queue de budget en fin d'année, on se dit, tiens, un peu d'argent, non, c'est une stratégie d'entreprise que, oui, les RH portent, parce que, oui, on est leader sur le sujet de l'expérience collaborateur, mais pas tout seul. Ça, c'est la grosse... peut-être la grosse différence, en tout cas, le changement de mindset qu'on doit s'appliquer. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je pourrais dire continuer des heures, mais je sens que...
Oui, je me permettrai d'intervenir parce que en parallèle de dont vous avez parlé, l'expérience collaborateur, en fait, il y a tout un sujet aujourd'hui qui arrive dans nos entreprises, c'est la marque employeur. Mmh. Il n'y a pas très longtemps, un séminaire qui est organisé par BPI, Marqueur des accélérateurs et de croissance, justement sur la marque employeur.
Ouais.
Et justement, on parle d'expérience collaborateur, de promesses candidats. Mmh. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser. Alors, pour moi, ça a été révélateur parce que maintenant, dans la sphère RH, on applique les méthodes du marketing.
Exactement.
Et pour moi, ça a été j'ai dit, mais oui, mais c'est bien sûr.
C'est ça.
Persona, ben, c'est exactement nous ce qu'on fait avec nos clients.
Parfait.
Ouais. Donc, en fait, il faut transposer. Exactement. Et dire, c'est ce qu'on fait pour nos clients, il faut le faire pour
exactement.
Nos clients.
Exactement. Et c'est l'expérience.
C'est nouveau.
Oui, c'est nouveau, parce que le RH, il n'est pas comme ça. Le RH, j'en parle d'autant plus que je suis RH, donc je veux, voilà. Il n'est pas comme ça, il n'est pas du tout orienté client, en fait. Mm-hmm. Il fait son truc, après que ça plaise, on s'en fout. Puis une fois que c'est, hop, voilà, bon, je caricature, hein, pardon, mais bon, quand même. Et c'est l'expérience client qui va tirer l'expérience collaborateur. C'est une certitude. Aujourd'hui, c'est les services clients qui vont voir les RH, en disant, là, j'ai quand même pas, un problème de staffing, ceci, cela, fais quelque chose, parce que mon client, je ne peux plus le servir. Donc oui, grâce à l'expérience client, on arrive à l'expérience collaborateur. Mais sur la marque employeur, il faut faire très attention à ne pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir.
Ah ben complètement. Donc c'était effectivement la cohérence, c'est-à-dire qu'effectivement, ça démarre dès le recrutement.
Ouais.
Et parce que effectivement, un candidat qui est déçu ouais. parce qu'on lui a apporté une promesse qu'on n'a pas été en capacité de tenir, la déception, elle est terrible.
Ah ben il repart dans.
C'est ça, exactement. Oui, donc. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien un chaînage.
Ouais.
Ça, c'est aussi une nouveauté pour nous, entreprises, ouais. parce que le contexte fait que depuis 3 ans, les choses ont évolué. Mmh. Et que, on parle de recrutement de promesses, donc de savoir tenir la promesse, d'onboarding, de fidélisation, donc tout ça se tient.
Et il faudrait faire très attention, toutes les boîtes. Que comme tout le monde fait ça du coup on a signé la charte machin, la charte truc et... donc en fait ouais super, mais sauf que mettons la charte LGBT, vous avez donc effectivement quelqu'un qui est sensible à ce sujet là qui arrive en entretien et avec le recruteur il sent pas trop la LGBT touch hein, donc ok d'accord super, alors en fait ils disent ça mais c'était pour m'attirer donc déjà je suis méfiant, bon mettons il passe le truc, il arrive dans les équipes et là Ouais, bof, c'est assez uniforme. Donc, bof, je suis pas sûre qu'ils... En fait, ils mentent, en fait, ils ont voulu m'attirer. Et il n'y a rien de pire que les dissonances. Rien de pire. Vaut mieux être très honnête avec qui on est, parce que ça va nous permettre d'ailleurs d'attirer des gens avec lesquels on est compatible. Parce qu'en fait, ce sujet, il est là. Pas rien d'attirer des gens avec qui vous n'êtes pas compatible. Hein. Donc, ouais.
Mais bon, ça veut dire que c'est embarqué, c'est pas que après le que le
Ah
département
non.
recrutement, le
Ah non.
département RH, et que c'est ce que
Ah non.
je vous essaie d'inculquer, c'est que c'est toute l'entreprise, hein, c'est l'ensemble, c'est une culture d'entreprise, effectivement, c'est les managers, et les managers avec leurs équipes,
C'est ça.
et tout ça
C'est ça.
doit être cohérent, mais voilà, surtout pas de promesses,
Pas de fausses promesses.
on arrive aux fausses promesses, voilà,
Ah.
c'est, je veux dire, après.
J'ai pris le cas LGBT à dessein parce que le nombre d'entreprises, enfin pas toutes d'ailleurs, mais les plus marketeuses, qui mettent le drapeau arc-en-ciel sur leur logo, je ne sais plus quel jour dans l'année, quand il y a la Gay Pride, je crois, ou je ne sais plus. Mais arrêtez, arrêtez de mentir en fait. Et ça, c'est horrible. Enfin, pour une entreprise, alors là, c'est vous faites fuir les candidats. Ça, en fait.
Et potentiels clients aussi, parce que
Et oui,
l'expérience
tout à fait.
collaborateur a un impact tout à fait sur l'expérience client. Tout à fait. Et parce que, enfin, moi, par exemple, quand j'étais chercher une alternance, j'ai passé un entretien dans une très belle maison de luxe. La recruteuse m'a regardé des pieds, de la tête aux pieds, avec un air dédaigneux, genre, ça ne le fait pas. Bon, je pense que physiquement, ce n'était pas son genre, peut-être. Elle m'a posé des questions qui sont absolument discriminantes. Et du coup, moi, en tant que collaboratrice, potentielle collaboratrice, j'ai dit, mais cette entreprise-là, plus jamais.
No way.
Et du coup, j'ai dit forcément, parce que quand ça se passe bien, on en parle à une ou deux personnes, mais quand ça se passe pas bien, on en
On
parle
parle
à
à tout le monde.
plus de personnes.
Là, il y a réputation.
Et ben, c'est clairement.
Exactement.
À l'époque, et voilà, et du coup, j'achèterai pas du tout cette marque, et parce que forcément, c'est pas telle personne qui a mal fait son job, c'est l'entreprise. Et c'est ça le truc, c'est qu'on ne dit pas oui, c'est telle personne, il y en a qui ne sont pas compétents en RH, ça peut, parce qu'ils ne sont pas formés. Et du coup, on ne se dit pas non, elle était pas compétente, c'est telle entreprise. Donc du coup, ça a un impact en tant qu'expérience collaborateur, ça a un impact sur l'expertise client et l'expérience client.
Je sais quand ce que donc je viens de Charente-Maritime quand je suis arrivée à Paris et en fait en RH du coup bah, vous parlez prud'homme etc et là le tribunal de commerce de commerce tribunal des prud'hommes de Paris la section commerce c'est les entreprises du luxe qui l'occupent beaucoup
Bah, c'était le luxe. Ouais, comme par hasard. Oui.
J'avais une petite remarque sur l'expérience collaborateur. On parle beaucoup d'humain, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions humaines, etc. Nous, on a une petite fibre un peu digitale. Est-ce que, y a des expériences collaborateurs ou est-ce que vous avez des exemples d'expériences collaborateurs où on peut mixer justement un peu de digital dans le parcours expérientiel et qui marche sans que ça, au contraire, que ça nuise à une relation
Ah, mais dès que la tech est au service de l'humain, il n'y a pas de problème. Et oui, par exemple, là où ça fonctionne le mieux, c'est les processus d'intégration avant, enfin, d'emploi, enfin, quand vous envoyez le contrat, tout ça. Ça, voilà, onboarding. Comme ça change d'appellation fonctionnelle. Enfin, bref. Mais oui, c'est ça. C'est avant l'arrivée d'entreprise, voilà, cette période de pré-embauche, là, c'est super de la digitaliser. Et ça, c'est grâce au Covid, d'ailleurs, que beaucoup de boîtes l'ont digitalisé parce qu'on ne pouvait plus envoyer des contrats. Voilà. Donc, oui, bien sûr, mais toujours au service de l'humain. Et vous avez, c'est Netexplo. Netexplo, qui est un observatoire d'innovation, qui en fait, donc, un partenariat avec je sais plus, une vingtaine d'universités, de grandes universités dans le monde, qui source en fait des innovations. Tech, c'est tech, 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 tech pur, mais leur critère pour sélectionner les meilleures innovations, c'est au service de l'humain, au service d'un village, d'une communauté, d'un pays, mais sinon, ils ne prennent pas l'innovation.
Je crois qu'on peut surtout applaudir.
Oui.